Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
C'est une enquête coup de poing qui était publiée dans la presse ce matin à propos du centre jeunesse Cartier à Laval. Je précise qu'un centre jeunesse, c'est un milieu de vie opéré par la DPJ pour des mineurs, évidemment pris en charge par l'État quand ils sont retirés de leur famille. Ils sont encadrés donc par des éducateurs de la DPJ. Et la presse nous apprend ce matin qu'il y a des enfants, des ados du centre jeunesse qui sont placés en retrait, comme on dit, dans une unité qui ressemble beaucoup plus à une prison qu'à un centre de réadaptation. Une unité, pour vous donner une idée, là, à laquelle on a accès par deux portes de métal semblables à ce qu'on peut retrouver dans des prisons. Normalement, ceux qu'on met en retrait comme ça, dans cet endroit-là, là où il y a une petite chambre là, spartiate là, qui est minuscule, qui ressemble encore une fois à une cellule de prison, ben sont en crise, sont en danger, constituent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, ou alors ils sont à risque de fugue. Mais là, ce que disent les sources de la presse à l'intérieur du centre jeunesse quartier à Laval, c'est qu'il y a un recours abusif à l'isolement de ces jeunes pour des crimes, entre guillemets, aussi banals que d'avoir été agité au souper ou d'avoir refusé de manger un repas. Les éducateurs qualifient beaucoup de ces enfants qui sont mis en retraite de tannants, tout simplement. Il y a des éducateurs qui parlent de cet endroit-là comme d'une cage. Et je souligne qu'un des enfants qui a été mis en retrait avait 9 ans. Le ministre Lionel Carman a annoncé une enquête. Sa sous-ministre, Catherine Lemay, qui est aussi la directrice nationale de protection de la jeunesse, est avec nous. Madame Lemay, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Première question n'est pas de moi, elle est de Régine Laurent chez Paul Arcand ce matin, quand elle expliquait sa réaction après la lecture de l'article de la presse. On va l'écouter.
La première question qui me vient, je pense que dans ce contexte, il faut se poser la question, est-ce que les droits de ces enfants-là sont bafoués?
Donc, Mme Lemay, est-ce que les droits des enfants qui sont décrits comme ayant été isolés ce matin dans la presse, est-ce qu'ils sont bafoués?
Ben, premièrement, je suis aussi préoccupée là que Régine Laurent et tous ceux qui ont dénoncé la situation, ce sont des intervenants qui ont dénoncé la situation, parce que ce qui est paru dans le journal ce matin, est-ce que les droits sont bafoués? Ben, vous avez entendu le ministre qui, conjointement, là, on a décidé d'enquêter sur cette situation-là, mais plus largement sur les pratiques en hébergement à Laval. Et je tiens à vous dire qu'on est déjà en contact avec Laval depuis le mois de mai dernier parce que certaines situations ont posé question, certaines situations pour lesquelles il y a eu des corrections d'amener de la part du CIS de Laval, notamment l'ouverture de milieux de vie plus appropriés pour certains jeunes, plus jeunes, qui ont été sortis de Laval, de quartier, pardon, pour être mis dans des ressources plus appropriées. Donc, est-ce qu'il y a eu lésion de droit? L'avenir nous le dira. L'enquête va assurément pouvoir nous parler de ce qui doit être fait ou pas. Et le DPJ de Laval est dans le dossier également.
OK, mais vous avez lu l'article comme moi, là. Un enfant de 9 ans qui est isolé, des enfants tannants, qu'on dit tannants, qui n'ont pas mangé, qui ont été agités dans un repas, qui sont mis dans une unité de retrait qui ressemble à une prison. Est-ce que les droits de ces enfants-là, selon vous, qui êtes directrice nationale de protection de la jeunesse, est-ce qu'ils ont été bafoués?
Bon, les lieux dans lesquels les enfants ont été mis, ce n'est pas les lieux habituels dans lesquels les retraits pour des plus jeunes se font. L'unité dans laquelle, d'habitude, ces jeunes-là vont, qui sont pour eux le plus court temps possible, hein, parce que quand tu es retiré de ton unité, c'est parce que normalement, tu ne peux plus vivre dans le groupe, donc tu as un lieu spécifique qui existe à Laval, comme ailleurs dans les autres centres jeunesse du Québec, pour venir retrouver ton calme. L'unité qui habituellement était utilisée pour les plus jeunes était occupée par une surpopulation qu'il y a en jeunesse à Laval, comme dans d'autres centres jeunesse également. Donc, ils ont utilisé les lieux physiques qui, normalement, sont utilisés pour les ados. C'est pas le milieu de vie des jeunes, là, faut comprendre. Ils vont là pour une courte période de temps, le temps de retrouver leur calme, accompagné d'un éducateur avec une porte ouverte.
Madame Lemay,
c'est vrai que les lieux physiques de quartier s'apparente à un milieu sécuritaire. C'est des bâtiments qui ont été construits il y a plusieurs années. C'était fait pour être des portes barrées. C'est plus le cas. La quincaillerie a été changée, mais les lieux physiques n'ont pas été changés.
OK. Ça fait deux fois que je vous pose la question. En mes mots et en ceux de Régine Laurent, ça fait deux fois que vous ne me répondez pas.
C'est parce que, M. Lagacé, je ne peux pas concrètement vous dire est-ce que les droits de l'enfant ont été lésés sans avoir plus de détails de la situation. Ce que je vous dis, c'est que c'est préoccupant, qu'il y aura une enquête qui a été faite. C'est moi qui dirige cette enquête-là, puis les gestes vont être posés en conséquence. Et le DPJ de Laval, qui est responsable de ces enfants-là, agit également en conséquence. Fait que je peux pas vous donner plus de réponses que ce que je vous donne là.
Qu'est-ce qui vous a le plus troublé dans le reportage de la presse?
C'est sûr que l'image de grillage, ça frappe l'imaginaire, j'en conviens. Je suis d'accord. Et d'entendre que il y avait eu une augmentation assez importante des contentions et des isolements, ça aussi, ça me frappe.
Écoutez, ce que la presse a révélé, Mme Lemay, ce matin, sur la foi de commentaires d'éducateurs de Laval scandalisés, qui ont décidé d'aller aux journaux et pas à la directrice nationale de protection de la jeunesse, ce serait pas à vous à révéler des affaires comme ça?
Bien, j'ai pas appris dans le journal ce matin qu'il y avait des défis à Laval, là. Puis le choix des éducateurs...
Est-ce que vous saviez qu'il y avait ce genre de contention-là puis de mise en unité de retraite dans des places, dans des cellules?
Je savais pas spécifiquement qu'on n'utilisait plus l'ancienne unité qui servait à débordement. Non, je savais pas ça, mais je sais qu'il y a des contentions et des isolements qui se font en centre jeunesse, puis qu'il y a des protocoles qui sont suivis en conséquence. Et la direction de Laval m'assure que les protocoles sont suivis, c'est-à-dire que tout est documenté, les parents sont informés, que le suivi est fait.
OK. Vous êtes la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Les jeunes de Laval qui ont été incarcérés dans cette unité de retrait là pour pas avoir mangé, pour avoir été turbulents, pour avoir été tannants, selon les mots des éducateurs, est-ce qu'ils ont été protégés?
Ben, dans la mesure où on m'assure qu'ils étaient accompagnés de leur éducateur, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seuls dans la salle qu'on a vue, là. Pour moi, je considère qu'en tout temps, il y avait un adulte vers qui il pouvait se tourner, avec lesquels il était en sécurité. Là. C'est pas comme s'il était lancé dans cette salle-là, la porte fermée, laissé tout seul. Mais est-ce que c'est l'idéal des situations? Non, c'est pas ça, c'est pas l'idéal de la situation. Est-ce que maintenant, les plus jeunes ont pu retrouver les lieux physiques plus appropriés pour avoir des retraits hors de l'unité? Oui, maintenant, c'est le cas. Et le centre jeunesse de Laval va tout faire pour ne plus utiliser les lieux dont on a vu l'image ce matin dans le journal.
Il y a une source qui travaille à la presse, à l'intérieur des murs du centre quartier, du centre jeunesse quartier, qui a dit, à propos des jeunes qu'on enferme dans ces cellules-là, on va en faire des monstres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je trouve que l'image est très grosse. Des isolements dans des lieux comme ça, c'est le dernier recours, c'est une mesure de contrôle. Et quand les enfants et les adolescents, surtout, sont mis là, c'est parce qu'il n'y a plus d'autres moyens. Tous les moyens de pacification, les interventions pour lesquelles les intervenants sont formés ne fonctionnent plus.
Mais c'est pas ce que dit l'article. L'article dit qu'on en met là quand ils sont tannants, quand ils ont refusé de manger, quand ils ont été agités dans des repas, par exemple.
Moi, là, M. Lagacé, je serais surprise que uniquement parce qu'un enfant est tannant, il se retrouve là. Okay. C'est pas le motif pour lequel on va en isolement. C'est quand même une mesure de contrôle. Ça demande un comportement désorganisé où les intervenants ne savent plus quoi faire. Fait que si l'enquête nous démontre que parce que justement ils sont tannants ou parce qu'ils refusent de manger, qu'ils se retrouvent là, ben c'est pas une utilisation appropriée de l'isolement. C'est pas pour ça que c'est fait.
Bien, ce que vous êtes en train de me dire, sans me le dire, c'est que les sources n'ont pas dit tout le contexte aux journalistes de la presse.
Je ne sais pas de quoi c'est fait, M. Lagacé. L'enquête va notamment servir à ça, mais actuellement, la direction de Laval m'assure que c'est pas dans un contexte comme ça que l'isolement est utilisé.
Mais les éducateurs disent que c'est le contexte dans lequel c'est utilisé l'isolement.
Bon, alors il faut faire la lumière sur la question. C'est normal que le DPJ de Laval s'implique là-dedans aussi.
OK. André Lebon, vice-président de la commission Laurent, lui dit publiquement qu'il faut aller plus loin qu'enquêter sur le centre jeunesse de Laval. Il dit qu'il faut des états généraux sur toute l'offre de services de réadaptation de la DPJ. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes. Est-ce que vous appuyez sa demande?
Ben, je suis d'accord avec lui qu'il faut aller plus loin. Puis d'ailleurs, c'est une des recommandations là, de la commission Laurent, d'avoir un chantier complet pour réviser notamment les lieux physiques, mais aussi les interventions qui sont faites en réadaptation en internat pour assurer qu'on est dans les pratiques contemporaines, là, qu'on est sur les meilleures pratiques.
OK, on va écouter Régine Laurent, justement, qui parle de ce chantier.
Normalement, en réadaptation, c'est un lieu de guérison, ce sont des enfants qui ont vécu des traumas. Et je me souviens d'une jeune adulte qui a témoigné à la commission, puis elle dit, moi, là, on me mettait là, et le seul contact que j'avais avec l'extérieur, c'était d'entendre les clés des intervenants qui passaient dans le corridor. C'est pas normal, et je ne comprends pas qu'on a une DPJ nationale qui ne vienne pas faire état de la situation.
Et Mme Laurent dit aussi, ce chantier-là, là, on en parlait quand on a déposé le rapport en 2021, on est en 2024. Est-ce que le chantier va avoir lieu un jour, sous une forme ou une autre?
D'ailleurs, c'est dans la phase 2 de la mise en œuvre du chantier de la commission Laurent. C'est dans la phase 2, donc c'est la phase actuelle. Le chantier devrait démarrer là dans les prochaines semaines. Faut comprendre que il y a un an, quand on s'est retrouvé avec plusieurs centres jeunesse qui étaient aux prises avec de la surpopulation, au lieu de partir le chantier, ce qu'on s'est assuré, c'est qu'on avait les places requises partout au Québec pour être en mesure d'héberger les jeunes. Fait que c'est vrai que on a dû reporter le début du chantier, mais on démarre ça dans les prochaines semaines.
OK. Écoutez, quand j'ai fait des appels aujourd'hui dans le milieu, puis j'ai demandé, j'ai dit, je vais avoir Catherine Lemay, directrice nationale de protection de la jeunesse, à mon micro, avez-vous des idées de questions? La question qui revenait souvent, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Donc, pour le bénéfice de la clarté, expliquez aux gens qui nous écoutent ce que vous faites comme directrice nationale de protection de la jeunesse.
Monsieur Lagacé, vous me revenez souvent avec ça, le fait que je ne fais rien. Je consacre tout ce que j'ai de compétences, de connaissances et de temps à actualiser les chantiers de la Commission Laurent. Premièrement, là, on est à notre deuxième projet de loi. On a, avec le ministre Carman, qui a déposé la révision de la loi de la protection de la jeunesse, qui a été faite dans des délais records en moins d'un an. On est en train de mettre en œuvre le projet de loi commissaire, qui va voir le jour bientôt. On a mis en place une série d'actions en amont de la protection de la jeunesse pour réduire les signalements, pour réduire la rétention des signalements. On est à près de 800 dossiers de moins en attente qu'à même date l'année passée. Et à la fin de l'année, on va finir avec moins de signalements reçus, retenus. Ça veut dire qu'il y a des moyens qui ont été mis en amont pour que les enfants reçoivent des services quand ils n'ont pas besoin des services de protection de la jeunesse. Ça se fait pas en étant assis sur sa chaise en regardant le temps passé. Et je vous assure que tout est fait pour que le maximum pour les enfants soit fait, parce que je suis consciente que chaque jour qui passe, c'est des enfants qui grandissent, qui n'ont pas ce qu'ils ont besoin d'avoir. L'autre chose qui est importante à retenir, c'est que au-delà de la protection de la jeunesse, tout ce qui est fait en petite enfance, en prévention, c'est essentiel si on va avoir des résultats dans 10-15 ans, puis qu'on se retrouve avec les petits d'aujourd'hui qui vont être des ados demain, qui ne se retrouvent pas dans le même cercle que les ados sont aujourd'hui. Donc, je pourrais vous en parler plus, là, mais disons que les grands pans de mur de ma job sont là actuellement.
Merci d'être venu à notre micro, Mme Lemay. Je souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup, M. Lagacé.
À la prochaine. Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Catherine, on l'a dit en début d'émission, c'est la nouvelle là, qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu culturel au Québec. Juste pour rire se place sous la protection de la loi sur les faillites. Il n'y aura pas de festival Juste pour rire, Just for Laughs à l'été 2024. Les tournées d'humoristes produits présentement par Juste pour rire, ben c'est annulé. Et il y a aussi la comédie musicale Waitress qui semble-t-il
est
en suspens dans les limbes. Donc on va parler de tout ça avec Martin Roy. Il est le président directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux, ce qu'on appelle le REMI. Monsieur Roy, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Est-ce que c'est un problème spécifique à Juste pour rire?
Non, ce n'est pas un problème spécifique à Juste pour rire. Je vous entendais un peu avant et je vous ai bien vu votre scepticisme et votre incrédulité là, par rapport à l'inflation, mais c'est vraiment, en tout cas, une partie du problème, c'est clairement l'inflation. Les événements, les festivals me disent qui leur en coûte aujourd'hui, là, en 2024, 35-40% de plus qu'en 2000 pour faire un événement comparable. Ça veut dire que les scènes sont plus chères, que les artistes coûtent plus cher, que tout coûte plus cher et que les revenus n'ont pas suivi ceux de subventions et de commanditaires, a priori, mais aussi la billetterie. Dans ce cas-là, il n'y en a pas de billetterie. Enfin, quand les événements sont présentés partiellement gratuitement et dans
non,
certains
cas... Non, mais, M. Roy, est-ce qu'on peut comparer un festival qui a été créé par une organisation à un festival, une organisation comme Juste pour rire, qui venait d'être acheté il y a quelques années pour 65 millions, ce qui était, de l'avis de beaucoup d'observateurs, beaucoup trop cher?
Ben, écoutez, moi, pour ce qui est du groupe, puis de la transaction, puis des troubles qu'il y a pu y avoir en 2017 dans la passation, puis tout ça, je veux pas revenir là-dessus. Puis moi,
pourquoi?
Encore une fois, c'est le festival. Moi, c'est le festival qui m'intéresse, là, d'abord et avant tout. Moi, le groupe, toutes les activités du groupe, puis tout ça, je peux pas vous dire là, que j'en fais ma spécialité, puis les activités à l'international, puis tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, c'est multifactoriel. Il y a certainement des problèmes qui sont dans le groupe, Juste pour rire, mais le festival, oui, il y a l'inflation, mais il y a le modèle d'affaires, qui est un modèle d'affaires qu'on a déjà nous mis en cause. Déjà en 2019, on avait fait des sorties publiques là-dessus. Tu sais, je vous donne un exemple. À l'époque, dans les années 2000, vous alliez au festival de jazz, vous alliez au festival Juste pour rire dans le quartier des spectacles, il n'y avait pas de restaurant, c'est un désert alimentaire, vous achetiez votre bière au festival, vous achetiez votre hot dog. Bon, ça représentait 19% des revenus des festivals à l'époque. Aujourd'hui, ça représente moins de 4%.
Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui a changé pour
ben,
ça?
C'est que, justement, dans le quartier des spectacles, on est un peu victime du succès. Je veux dire, tout le monde va aller acheter sa bière chez Saint-Hubert, puis acheter son hot dog chez La Fleur, puis autour. Tu sais, dans le fond, c'est que les événements ne captent plus les revenus. En tout cas, c'est une partie de l'explication. Encore une fois, je vous dis pas que c'est le seul problème, c'est multi. J'imagine que les solutions aussi, il n'y a pas personne qui a la clé, là, puis qu'il y a une solution, il va falloir que ça vienne de l'ensemble des subventionnaires, des partenaires, puis que chacun fasse quelque chose.
Mais justement, si on parle des subventions, parce que j'imagine que en bout de ligne, ce que vous voulez, c'est peut-être demander plus d'argent aux différents paliers de gouvernement et peut-être à la Ville de Montréal, mais à un moment donné, je pense qu'il y a une limite là, à payer. Il faut que les festivals soient capables aussi d'aller chercher d'autres sources de financement avec des commanditaires, avec...
Absolument. Les festivals membres du REMI, puis Juste pour rire comme le jazz ou d'autres, les festivals membres du REMI sont subventionnés à 18%. Donc, ça veut dire qu'il y a 82% de revenus autonomes. Ça veut dire que c'est pas, c'est certainement moins que ce à quoi vous vous attendiez, là. 18%, c'est quand même pas, là, la majorité des revenus qui viennent de l'État. Ça veut dire qu'il a des revenus autonomes. Bon, dans le cas des festivals qui sont présentés gratuitement, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas toujours, évidemment, pour ce qui se passe sur la place des festivals, il n'y en a pas de billetterie. Alors, nous, c'est pour ça qu'une des solutions, par exemple, qu'on avait amenées dans le débat public l'année dernière, en marge de notre Assemblée générale annuelle, on avait dit, ben, la Ville de Montréal, elle doit nous permettre quand même de tarifer certaines activités. Ça ne veut pas dire qu'on met en cause le principe de gratuité. Au contraire, on y croit. On croit que ça distingue Montréal de l'ensemble des autres villes, puis de l'animation qui est dans le centre-ville, c'est extrêmement important, puis c'est grâce à ça. Mais est-ce qu'on peut créer tantôt une zone VIP, tantôt un avant-scène qui est payant, etc., sans mettre en cause la gratuité en général, mais d'aller chercher quelques revenus avec ça, parce que autrement, la mathématique est quand même assez simple. Je pense que tout le monde sait que les subventions des gouvernements n'ont pas augmenté de 35 ou 40 depuis 2019, pas plus que les commandites. Alors, il y a un problème, je veux dire, mathématique très, très simple.
Mais, M. Roy, je vais vous dire, j'ai quand même un problème à ce qu'on soulève la possibilité de peut-être faire payer le citoyen, qui est aussi un contribuable. Quand je regarde, vous me dites que c'est à 18% que les festivals sont financés. Quand on privatise une partie de l'espace au parc Jean Drapeau pour Evenco, puis son festival dont j'oublie le nom.
Oceaga.
Quand il y a d'autres festivals qui recevaient des subventions pour faire des spectacles en direct, on créait une compagnie sur le side pour filmer ça. Ça, 100% des profits, ça restait par contre d'un festival dans l'autre patente. Ça, je sais pas où c'était comptabilisé dans l'équation.
Oui, ben écoutez, ça, on l'a entendu, là, ça fait 20 ans que j'entends ça, mais les codes de déontologie. Non, ben écoutez, il y a des codes de déontologie qui existent, qui ont été créés. Les gouvernements se sont attardés à ce problème-là, ou enfin à cet enjeu-là. Puis ils ont convenu que tout était legit, comme on dirait. Puis vous le savez, en fait, un des problèmes à la base qui a été, ça pourquoi il y a cette structure corporative-là, c'est que le ministère, que Patrimoine canadien ne subventionne pas les entreprises culturelles et ne subventionne que des organismes à but non lucratif. Donc à la base, c'est comme ça que ça a été créé. Ceci dit, oui, on met des subventions, mais on a toujours fait valoir que les retombées sont plus importantes que les subventions. Dans le cas de Juste pour rire, annuellement, c'était 34 millions de dollars qui étaient créés.
Selon qui? Selon la firme embauchée par Juste pour rire ou par le lobby des festivals?
Non, pas du tout. Selon la méthodologie qui a été faite par le ministère des Finances à Québec.
Alors, je vous soumets respectueusement qu'il y a des profs d'université qui dépendent pas des festivals pour vivre, qui disent que c'est hautement gonflé.
Je vous réfère moi-même à un article de Vincent Brousseau-Pouliot dans la presse il y a quelques années qui faisait la démonstration éclatante que c'était quand même rentable. Okay. Alors,
si, je comprends, si ça va si mal dans le milieu des festivals, pourquoi est-ce que Evenco vient de dépenser des millions pour racheter certains festivals à Olivier, c'est Olivier qui?
Olivier Primo, exactement.
Ouais. Ben écoutez, encore une fois, j'en reviens à ça, je vous parle d'un modèle d'affaires. Il y a différents modèles d'affaires dans l'industrie festivalière. Ils n'ont pas tous le même modèle d'affaires. Les festivals qui ont été achetés ou rachetés récemment, Métro-Métro, Fuego, c'est des festivals avec une billetterie. C'est quand même extrêmement important. Puis je vous dis pas que les problèmes qui sont vécus par le jazz, Franco, Juste pour rire, Nuit d'Afrique, Présence autochtone, Fierté Montréal, sont les mêmes que le Festival d'été de Québec ou que Oceaga, par exemple. On est dans la même industrie, mais on n'est pas du tout dans le même modèle d'affaires. Il y a des extrêmement importantes différences à faire entre les différents types de festivals.
Mais, M. Roy, pourquoi, habituellement, quand vous terminez une édition de festival, peu importe le festival, on doit soumettre, j'imagine, des états financiers pour pouvoir toucher à nos subventions pour l'année d'après. Comment ça se fait que personne lève le flag si à un moment donné, on voit qu'il y a un festival qui s'en va dans le mur puis qui n'est pas rentable depuis une couple d'années, il doit avoir un drapeau rouge qui doit se lever quelque part?
Ben écoutez, de façon générale, les subventions sont extrêmement, contrôlées, autant sur les redditions de comptes que les formulaires. Est-ce que ça veut pas dire que l'édition, la dernière édition, en tout cas, j'ai pas regardé les états financiers de la dernière édition de Juste pour rire, je sais pas exactement qu'en était-il du surplus ou du déficit. Puis là, encore une fois, faut ramener ça beaucoup plus largement parce qu'on parle du groupe Juste pour rire et non du festival, ou enfin que du seul festival. Je peux pas dire que c'est ce qui explique, que le festival explique les problèmes à 100%, les problèmes du groupe aujourd'hui. Dans quelle mesure c'est un problème plus large? Moi, j'ai pas toutes les informations, puis je suis pas porte-parole de l'organisation, là, mais vous comprenez que c'est le festival est quand même une des activités. On peut parler, encore une fois, je reviens sur l'aspect multifactoriel de ça, mais...
Dernière question, juste pour être clair, vous n'êtes pas payé par Juste pour rire, ça c'est clair, M. Roy, mais en tant que PDG du regroupement des événements majeurs internationaux, vous êtes payé par les festivals.
Oui, c'est-à-dire okay. que l'association est financée par ces festivals,
parfait.
Effectivement.
Merci, bonne journée.
Merci.
Martin Roy, PDG du regroupement des événements majeurs internationaux.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Nordvolt, c'est un sujet qui suscite beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup d'adhésion. Beaucoup de Québécois qui sont d'accord, notamment en Montérégie. Les gens sont d'accord. Ils auraient préféré qu'il y ait un BAP, mais il y a quand même un appui pour le projet. Et hier, on a appris que le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a admis que le gouvernement du Québec avait fait une sorte d'accommodement raisonnable avec Nordvolt en lui permettant, disons, des petites entorses aux règles pour pouvoir éviter le BAP, ce qu'on appelle le Bureau d'audience publique en environnement, qui aurait pris un an et demi, et le géant suédois a bien averti le gouvernement en amont des négociations. Si vous nous soumettez à un processus réglementaire qui va durer un an et demi, 18 mois, on viendra pas au Québec. Yves Lessard est le maire de Saint-Basile-le-Grand. On va faire le point sur la saga de Nordvolt avec lui. Monsieur Lessard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, peut-être, parlez-moi un peu de vos interactions avec Nordvolt. Comment vous qualifieriez, disons, la nouvelle présence de Nordvolt là, sur votre territoire?
Ben, c'est une interaction d'ouverture, je veux dire, c'est des gens qui ouvrent des livres, qui un échange franc, puis à date, je veux dire, si on avait eu le même échange avec le ministère de l'Environnement, on n'aurait pas eu la vertige d'intervention qu'on a eue là.
OK, donnez-moi un exemple de transparence dont Nordvolt a fait preuve avec vous, là, qui êtes le maire de Saint-Basile-le-Grand. Là. À quelle sorte de questions ils vous ont répondu, disons, qui vous ont surpris par leur transparence?
Bon, d'abord, ils sont venus nous rencontrer avec toute une équipe pour expliquer le projet comme tel. Dès le mois d'avril, moi, qu'on se rende en Suède pour pouvoir prendre connaissance effectivement du projet qu'il y avait là-bas. Moi, j'avais souhaité attendre plus tard pour avoir, bien sûr, une meilleure connaissance pour poser les questions les plus pertinentes possibles et rencontrer les personnes appropriées pour pouvoir nous donner un éclairage indépendant de Nordvolt comme tel. C'est ce que nous avons fait. C'est seulement qu'en septembre, nous sommes allés. Et là-bas, on a rencontré, bien sûr, la mairesse avec la direction générale, bien sûr, de la ville, les citoyens de la ville de Certifio, et puis aussi les travailleurs de l'usine. Et puis, bien sûr, on a pu faire un constat là sur place de la façon dont les opérations se faisaient là-bas. Alors, à cet égard-là, je veux dire, on pouvait nous-mêmes, à la lumière de nos questions, pouvoir faire les vérifications sur place là pour avoir être rassuré par rapport au projet.
Qui a payé le voyage?
C'est la municipalité.
OK, donc vous avez pu poser toutes les questions que vous vouliez là à qui vous vouliez quand vous êtes allé en Suède.
Oui, oui, oui. On a fait ça. Là. On a été là-bas une semaine complète. Alors, nous, les deux municipalités, nous étions les maires et puis notre direction générale à chacun et nos responsables, le directeur du service d'urbanisme et aussi deux conseillers municipaux pour Saint-Basile, la personne responsable pour le dossier de l'environnement, notre responsable en ce qui concerne l'urbanisme au niveau politique. Donc, nous avons une représentation tant politique au niveau du conseil qu'administratif pour chacune de nos villes.
OK. Qu'est-ce que vous pensez de l'opposition de beaucoup de Québécois, et je dis pas qu'ils sont majoritaires, au projet d'usine de Nordvolt sur votre territoire?
Les questions qui sont posées sont des plus pertinentes. Dès le début, je veux dire, on voyait qu'il y avait quelque chose là où il y avait une hésitation pour le ministère de l'Environnement de répondre aux questions, parce que les réponses, il les avait. Donc, nous, on est intervenus plusieurs fois. D'ailleurs, c'est en novembre que le ministère, les différents ministères devaient venir rencontrer nos citoyens pour pouvoir répondre à leurs questions. Deux reprises, ils ont reporté, ils ont annulé tout simplement sans reporter ces rencontres-là en novembre. Et le 19 janvier cette année, alors on a écrit au ministre pour dire, écoutez, là, ça va faire. Là, il va falloir que vous nous dites,
à quel ministre, je m'excuse de vous interrompre, M. Lessard, à quel ministre dans le dossier? À M. Charrette, à l'environnement, M. Charrette?
Oui, Monsieur Charest avec copie, bien sûr, au ministre Fitzgibbon et puis à nos deux députés ministres ici, parce que nous, c'est Monsieur Jolin Barrette et Monsieur Robert qui sont nos députés ministres. Alors, qu'on avait rencontré d'ailleurs en octobre sur le dossier. Alors, nous avons dit à Monsieur Charest le 19 janvier. Écoutez, il va falloir se rencontrer parce que ça va pas. Vous avez les réponses et puis vous les donnez pas aux gens qui posent des questions les plus pertinentes. Alors, on a fait une rencontre avec le ministre Charest le 29 janvier pour lui dire il faut que vos gens viennent rencontrer nos citoyens et puis éclaircir la situation parce que l'idée d'avoir un BAP veut dire c'est quelque chose qui est légitime. Alors, pourquoi est-ce qu'on contourne toujours la question? Alors, voilà. Et ça a effectivement provoqué la rencontre. Donc, les trois ministères concernés, particulièrement, bien sûr, l'environnement, le transport et le ministère de l'économie et de l'innovation. Alors, les fonctionnaires sont venus rencontrer nos citoyens, tant McMaster-Lille que chez nous, alors le 28 et le 29 février. Et puis, ça s'est bien passé. Mais ce qu'on a pu constater à ce moment-là, c'est qu'ils pouvaient donner des réponses en fonction de l'état actuel du dossier sans avoir des réponses pour le développement futur du dossier.
Le fait que le gouvernement a pas voulu que Northvolt se soumette à un BAP, est-ce que ça vous a surpris et est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
C'est-à-dire, on pourrait être d'accord à partir du moment où on nous donne les vraies raisons pour lesquelles. Alors, les circonstances, si on nous avait dit dès le début, écoutez, il n'y en aura pas pour des impératifs économiques, parce que sinon, notre vote ne s'établirait pas chez nous. Je veux dire, je pense que les gens ne sont pas idiots, là, ils auraient compris, même s'il n'y aurait pas partagé, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'auraient pas souhaité avoir un BAP et tout ça. Mais dès le début, si on nous avait dit ça, et en plus, nous faire connaître comment maintenant on était pour gérer l'application des obligations en ce qui concerne l'environnement. Alors nous, on a pu le découvrir au fur et à mesure que les certificats d'autorisation, par exemple, nous ont été émis. C'est-à-dire on nous a fait parvenir les certificats d'autorisation en octobre pour dire, voici, il va y avoir tant d'arbres qui vont être coupés, il faut aussi remblayer telle surface, etc. Parce que la municipalité, elle, se doit de donner les permis. Donc, là-dessus, pour ces deux permis-là, nous avons travaillé plus de 5 mois, là, quasiment 4 mois et demi, pour pouvoir étudier effectivement ces demandes-là et faire en sorte que les règles soient appliquées.
OK. Dernière question. Avez-vous une préoccupation environnementale, que ce soit des rejets dans la rivière, dans l'air, auxquels, disons, Northvolt ou l'environnement, le ministère de l'Environnement, n'aurait pas répondu?
Si ça se passe tel qu'on a constaté, nous, en Suède, je veux dire, je suis pas trop inquiet. Maintenant, on est sur un nouveau projet qui doit être un modèle similaire à celui en Suède. En Suède, veut dire la question du bruit, par exemple, des émanations toxiques, quoi que ce soit, ça n'existe pas là. On a pu faire le tour, constater, etc., etc. Le traitement de l'eau, par exemple, la rivière, c'est ils vont récupérer de l'eau pour pouvoir refroidir les procédés, mais c'est une eau qui ne retournera pas à la rivière immédiatement, qui va être par la suite refroidie, parce que c'est une eau qui va venir refroidir les procédés, donc par la suite, ça va chauffer. Mais avant d'être retournée à la rivière, c'est une eau aussi qui va être analysée pour être sûre qu'elle est de même ordre que celle qu'on a puisée.
Merci d'avoir été avec nous, M. Lessard. Je souhaite une bonne journée.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand. Le Québec maintenant!
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Je vous présente un artiste québécois que vous connaissez peut-être pas. Il a beaucoup fait carrière aux États-Unis en musique électronique. Frédéric Durand est connu sous le nom de DJ Snails. Et on va pas parler de musique, on va parler de diffamation parce que Frédéric Durand a reçu un dédommagement, a reçu un jugement qui lui donne droit à 1,5 million de dollars pour une campagne de diffamation dont il a été victime sur Internet. Tout ça s'est passé dans un tribunal de l'Alberta. Il est en studio. Frédéric Durand, bonjour.
Bonjour, merci.
Donc, il y a une femme qui s'appelle Michaela Higgins qui s'est lancée dans une campagne contre vous où elle alléguait, elle relayait des allégations d'inconduite, d'agression sexuelle. Vous avez pu démontrer que c'était faux et vous avez décidé de la poursuivre en Alberta. Qu'est-ce qu'elle alléguait?
Des allégations de certaines encounters, que je pourrais dire. Des rencontres avec certaines demoiselles durant la carrière que j'ai eue, ou bien des histoires qu'elle a trouvées sur Twitter, que les gens alléguaient un peu des comportements qui étaient sexuels, là, qui n'étaient pas vrais du tout.
Finalement. Vous avez jamais été accusé d'agression sexuelle ou de quoi
non,
que ce soit, là?
C'est vraiment elle qui a parti la campagne à travers une page Instagram qu'elle a créée durant juin en 2020.
Et juste contre vous? La campagne, ça vous ciblait vous, uniquement vous.
C'était vraiment, le nom était contre moi. Les évidences contre Snails.
OK. Donc, les preuves contre DJ Snails.
Exact.
OK. Et là, vous avez pu démontrer que certaines des femmes dont elle disait que vous les aviez agressées, c'était pas vrai. Ces femmes-là ont publiquement dit que c'était pas vrai.
Il y en a une qui est venue publiquement, qui a dit littéralement son histoire. C'est jamais arrivé. Puis même elle s'est faite...
Elle s'est fait harceler, cette femme-là.
Oui, elle s'est fait harceler sur Internet parce que les gens la croyaient pas, mais elle a posté des photos, des discussions, tout ça, et les autres personnes...
OK, juste pour être clair, Frédéric Durand, il y a une femme qui lève la main, qui dit, écoutez, on dit que j'ai été agressé par DJ Snails, Frédéric Durand, ce n'est pas vrai, voici des preuves. Et quoi, il y a des meutes numériques qui ont déferlé sur cette femme-là.
Ah oui, elle s'est fait littéralement beaucoup attaquer, puis jusqu'à un point que Michaela Higgins elle a quand même publié qu'est-ce que la fausse allégation disait. Elle n'a jamais corrigé plusieurs de leurs des trucs qui ont été dit sur Internet.
Est-ce que vous avez essayé de contacter cette femme, Michaela Higgins?
Dans le processus légal,
okay.
On a juste conseillé de pas engager parce que il y avait beaucoup de contenu qui disait que même toutes les personnes qui disaient finalement, j'avais toutes les preuves. Donc, puis même elle, qu'est-ce qu'elle alléguait, qu'est-ce qu'elle partageait? Elle faisait même pas connaissance de la vérité qui a été mise sur Twitter plusieurs fois et même à travers moi-même mes comptes que j'ai dit la vérité.
Pourquoi cette femme-là, Michaela Higgins, vous en voulait?
Écoute, c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie entière. C'est une personne de Californie qui vit là. Si j'aurais la réponse à la question, j'aimerais ça vous le dire, mais encore là, à ce jour, j'ai jamais rencontré cette personne.
Donc, vous l'avez jamais rencontrée. Est-ce qu'elle agissait parce qu'elle pensait quoi, qu'elle connaissait une de vos victimes supposées?
Ah, mais même là, au début, ça commençait juste avec des faux dires à mon sujet. Là, c'était Frédéric, j'ai entendu dire que Frédéric a fait ça, puis il y avait même pas de vraie personne. Là. Donc, sérieusement, je n'ai aucune idée pourquoi ça l'a... Puis même à travers tout le procès, durant les 2 années, on a donné nos évidences, puis elle a toujours continué à poster même les mensonges, même en voyant les évidences, que c'était comme, ben la personne qui disait ça, ce n'est pas vrai, c'est complètement pas vrai, regarde après ça, puis elle a jamais enlevé, elle a toujours même continué jusqu'à ce jour, jusqu'après le jugement, elle continue encore.
Frédéric Durand, je lisais la décision du juge Albertin, Et semble-t-il que maintenant, c'est votre avocat qui est ciblé par ses par sa campagne?
Oui, elle elle voulait assister de tout ça. Elle a tellement subi à cause que la justice est pas fair dans ses mots qu'elle voulait, elle veut faire un livre qui raconte son histoire personnelle par rapport à ça.
OK. Pourquoi vous avez choisi de la poursuivre devant un tribunal albertain?
Tout ça a commencé quand, en août 2022, finalement, j'avais des shows qui étaient prévus de jouer là. Puis, dans ce moment-là, c'était un peu après qu'elle a créé la page, elle a commencé à attaquer des promoteurs qui étaient établis à Edmonton et Calgary. Puis, elle a commencé à les attaquer sur Internet en relayant beaucoup d'internautes pour aller attaquer, aller donner des reviews négatifs sur leur... Sur leur page.
Donc, sachant que vous alliez jouer dans des spectacles, les promoteurs ont été ciblés par Mme Higgins et ses meutes numériques.
Exact. Elle a ramené des troupes de nombre incroyable. Puis ces gens-là, en les attaquant, ça fait peur. Écoute, n'importe quel promoteur aussi, là, ça détruit leur rating Facebook et tout ça. Donc, ils ont dû, par les hauts placés de leur revenu, de canceller les shows, puis c'est là que ça a été le...
Vous avez été déprogrammé.
Oui, puis ça a été le début du cauchemar, finalement.
OK, Frédéric, vous parlez de cauchemar, je vous comprends. Comment ça... Quel impact ça a eu dans votre vie, cette campagne de harcèlement menée par cette Mme Higgins?
Ben, ça l'a tout détruit, là. Genre, aujourd'hui même, ça semble surréel d'être ici d'en parler parce que le 4 ans était littéralement le plus long de ma vie. Là. À chaque jour, quand ça commençait... Tu te réveilles une journée, tu te dis, est-ce que ça va être la fin? Est-ce qu'elle va poster encore d'autres affaires qui sont pas vraies? Puis, le plus dur là-dedans, c'est que ça affecte ma famille, mes amis, ma copine. Après ça, ça affecte les gens qui me connaissent, des artistes qui ils veulent plus du tout s'associer à moi à cause de la peur. Même pas à cause que ils doutent de moi, parce que tout le monde qui me connaît, ils ont resté en contact, mais il y avait peur des attaques.
Mais c'est ça, parce que si vous larguaient pas ces gens-là, ben ils allaient être ciblés à leur tour.
Exact. Puis ça, c'est ça qui a tout détruit. J'ai quand même toujours continué à parler à des gens, mais les shows, je faisais environ 125 à 150 shows par année. Puis là, dans les dernières années, c'était peut-être une dizaine, une quinzaine. Donc, les gens qui ont continué, je les remercie énormément, comme les fans qui ont continué à croire mon côté de l'histoire tout le long. Là. Donc, cette win-là, pour moi, est vraiment...
Cette victoire-là
est vraiment une manière de leur dire merci puis de leur prouver que tous les efforts qu'on a donnés sont vrais. T'sais.
Combien d'argent vous avez perdu avec des spectacles qui ont été annulés ou qui n'ont pas eu lieu à cause de cette campagne de dénigrement?
Ben, on parlait tantôt du montant élevé que... Ouais.
1,5 million que vous avez reçu.
1,5 million, c'est... les chiffres à la base, moi, l'argent n'a jamais été un but de tout faire ça. Pour moi, c'était vraiment de reprendre ma réputation puis de remettre les pendules à l'heure. Mais la vérité de ça, t'as peut-être au-dessus des millions, 3 millions que je faisais des fois. Là, durant les dernières années, il y avait un grand montant qui était attribué.
Vous pouviez faire comme 3 millions par année?
Dans les hauts, le pic, mais c'était dans les grands chiffres. Puis de ça, complètement tombé dans le négatif. Là, parce que ça affecte aussi... toute la musique, le monde ne veut pas écouter ma musique, donc la grandeur du résultat qu'on a eu avec la suite vient du fait que c'est de l'argent qu'on a perdu pour le vrai.
Vous avez reçu 1,5 million de dollars pour être dans le milieu des médias puis connaître un peu l'environnement. C'est un montant énorme que vous avez reçu.
Je veux juste préciser, on n'a pas reçu l'argent encore. Okay. C'est attribué par le jugement, mais oui, c'est le montant qui serait.
Donc, en fait, Mme Higgins est condamnée à payer 1,5 million de dollars. Elle est en Californie.
Oui.
Est-ce que vous avez espoir de mettre la main sur cet argent-là?
Pour l'instant, en ce moment, c'est tellement juste une grosse nouvelle pour nous de recevoir juste le jugement que je suis pas là encore. Je pense que puis j'ai jamais fait ça anyway pour l'argent parce qu'encore là, c'était pour vraiment pouvoir mettre mes évidences devant un juge, une personne impartiale qui veut analyser mon cas finalement. Donc, quand l'étape va arriver à ça, quand je vais être vraiment prêt, ce qui est pas là, en ce moment, je vais pouvoir, dans ma tête, aller appliquer ça.
Donc, quand le juge Devlin dit que vous avez été victime d'une campagne de dénigrement motivée par la mauvaise foi, est-ce que pour vous, ces mots-là, ça vaut plus que l'argent que vous pourriez hypothétiquement toucher?
Pour moi, ça n'a pas de prix. Je vous dirais que voir les gens qui récemment, qui en parlent, qui sont venus me revoir puis dire « Wow, bravo, c'est vraiment... » Ça, pour moi, est tout l'or du monde. C'est toujours ça, voir le sourire de ma mère qui voit comme « Oui, finalement! » C'est comme... C'est ça pour ma copine qui a toujours été à l'entour de moi durant les 5 dernières années qui s'est battue ensemble. Pour moi, c'est une... J'appelle ça une bataille. J'aime pas le mot bataille parce que même si c'est la vérité de qu'est-ce que j'ai dû faire, mais c'est toutes les gens qui sont à l'entour de moi. Pour moi, c'est une victoire de communauté, là. C'est vraiment de pouvoir finalement pouvoir pas tourner la page de ce chapitre-là d'enfer que j'ai vécu durant toutes ces années-là.
On comprend que le mot enfer s'applique ici.
Désolé, j'utilise des mots un peu oui, immenses, mais c'est vraiment c'est incroyable comme histoire.
Ben, on peut comprendre. Parfait. Merci d'être venu nous parler de tout ça en studio, Frédéric Durand.
Merci à toi pour votre temps. Merci beaucoup.
Frédéric Durand, DJ Snails, qui a reçu, qui est le bénéficiaire d'un jugement de d'une cour de l'Alberta. Un juge lui octroie 1,5 million de dollars pour une campagne de diffamation. On l'accusait d'agression, d'allégation, d'inconduite sexuelle, de toutes sortes. Le juge a conclu que c'était totalement faux, motivé par la mauvaise foi.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
C23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.